Bonjour. Bon, qui c'est qui est habillé en vert aujourd'hui? En vert? Oui, très bien. Il y a d'autres personnes en vert? Oui. Il y a quelqu'un d'autre? Non. Pourquoi je parle de vert? Ah, la Saint-Patrick, très bien. Alors, s'il faut retenir quelque chose de Saint-Patrick, c'est que c'était un missionnaire qui, au 5e siècle, a apporté le christianisme en Irlande. Et ça, apporter Christ, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est ce que l'on veut apporter ce matin. Alors, ces derniers dimanches, on parle de ce qu'on appelle dans l'évangile de Matthieu, de serment sur la montagne. C'est Jésus qui parle à ses disciples. Et j'ai intitulé de l'alphabet à la composition. Une réflexion sur une partie du serment sur la montagne. Vous connaissez peut-être le serment sur la montagne, les béatitudes. Quand Jésus prend un peu de temps à part, il voit la foule et il s'en va sur la montagne avec ses disciples et il les enseigne. Il leur donne, comme ça a été vu les deux dimanches précédents, une petite leçon de self-image, c'est-à-dire tels qu'ils sont ou tels qu'ils devraient être. Une lumière pour le monde, tous ensemble, les disciples dispensent une saveur. Ils sont le sel de la terre, reflet de leur humilité, de leur transparence, de leur intérieur vers l'extérieur, vers leur prochain. Et après avoir dit tout cela, au verset 17 de Matthieu 5, il commence à leur donner quelques outils. Qu'est-ce qu'il faut utiliser pour être la lumière du monde, le sel de la terre? Et là, il commence par quelque chose de très surprenant. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Alors, outil ou pas outil, Jésus entre dans les détails. Tout ce qui est avant lui reste. Il n'y a rien de nouveau. La loi, tous les prophètes, rien ne change. Mais alors, c'est quoi la nouvelle qu'il vient nous annoncer? Après avoir encensé l'image du disciple, il revient au point de départ de la foi juive, la loi. Il se qualifie lui-même, au verset 17, d'accomplissement de la loi et des prophètes. Dans un autre évangile, Jean, dans son premier chapitre, qualifie lui-même Jésus de parole faite chair. Et donc, il ne pouvait que créer. Puisque la parole de Dieu ne fait que créer dès la Genèse. Dieu parle et tout arrive. Il se qualifie d'accomplissement, mais donc de Dieu. Il est la parole de Dieu, de la loi et des prophètes. L'ensemble de ce qui est dans ce que l'on appelle l'Ancien Testament, la majeure partie de la Bible, ça fait bien les deux tiers, hein, voilà. L'ensemble appelé Ancien Testament, toute une alliance mécanique, une alliance de loi mécanique et impossible à accomplir à la lettre, une sorte d'alphabet. Un alphabet que tout alphabet, comme tout alphabet, par essence, est inchangeable, rigide, un vrai tuteur, comme le dit l'apôtre Paul dans Galates. Un outil, mais quel outil? La loi, pourquoi est-ce qu'elle serait un outil pour nous? La loi et les prophètes. Dans le prophète Jérémie, Dieu crie: Écoutez ma voix, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous ai prescrites, afin que vous soyez heureux. Et après, il fait une constatation. Et ils n'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille. Ils ont suivi les conseils, les penchants de leur mauvais cœur. Ils ont été en arrière et non en avant. La loi est un outil difficile, difficile à utiliser. La loi sert à nous apprendre, à nous voir comme Dieu nous voit. Et comme dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, au verset 1, Dieu est réaliste et il dit « Avec la loi, tout le monde est reconnu coupable devant Dieu. » La loi est un outil. Jésus l'affirme, c'est lui l'outil. Il sait de quoi il parle, puisque dans l'évangile de Jean, il dit « Qui de vous me convaincra de péché ?» Il était la loi lui-même. Au verset 18, il affirme que la loi et les prophètes ne doivent pas être touchés. À l'époque, pour recopier les textes, il n'y avait pas d'imprimerie ou d'informatique, c'était des scribes qui, par un travail scolaire, recopiaient chaque passage, en gardant chaque iota, c'est-à-dire la plus petite lettre de l'alphabet grec, et chaque trait, un petit ornement minuscule de l'alphabet hébraïque. Il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, un seul trait de lettre. Un travail. Quelque chose que Jésus nous demande de conserver. Au verset 17, il dit qu'il accomplit la loi, les prophètes, tous les textes, c'est moi, c'est eux, ils parlent de moi, tous ces textes. La loi, les prophètes reflètent Jésus et permettent de le connaître, de comprendre ainsi le verset 19. Celui donc qui supprimera l'un des plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. La loi et le prophète, oui, un outil. Un outil si on considère que dans ces textes, on va trouver Jésus. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous prévient de ne rien enlever de ces textes. Est-ce que l'image que l'on a de Jésus, de son salut avant, dans l'Ancien Testament, l'image que l'Ancien Testament nous montre de Jésus, l'image de Dieu, est-ce qu'elle est tronquée ? Est-ce qu'on a enlevé des choses ou est-ce qu'elle est complète ? Est-ce qu'on a une vision tronquée de la loi en supprimant un trait ou plutôt en violant ou en oubliant certains textes ? Est-ce qu'on a une vision complète de la personne de Jésus que lui-même nous dit se trouve dans ces textes ? Une image complète de son caractère ? Il faut tenir compte de tous les textes, sans exception. Est-ce qu'on a une vision tronquée ? Une vision tronquée, enseignée mais présente tout de même dans le royaume des cieux. Parce que même si le verset 19 nous dit que même si on a quelqu'un qui a enseigné, il se trouve quand même dans le royaume des cieux. Alors comment comprendre ça ? Si Jésus dit qu'il est le plus petit, Jésus, lui, l'origine de toute la création, du microscopique à l'immensité de l'univers, comment vouloir s'identifier au microscopique ? Si on se trouve, si on enseigne une version, je dis tronquée, c'est-à-dire pas complète, eh bien il nous dit, on sera dans le royaume des cieux, mais tout petit. Et là, il parle de celui qui enseigne, attention, mais pas de ceux qui écoutent. Une vision tronquée dans le royaume, mais comment ? Celui qui gardera, par contre, sera appelé grand. Et celui qui l'enseigne, celui qui aura une vision d'ensemble, qui aura étudié, enseigné l'ensemble et étudié l'ensemble de la parole, qui connaîtra ce que Jésus accomplit quand il dit qu'il est venu accomplir la loi et les prophètes. Celui qui le connaîtra à fond, lui, le Dieu créateur, sera appelé grand. Remarquez qu'il ne dit pas le plus grand, parce que le plus grand, ça peut être que lui, le Dieu créateur, venu nous voir. Une vision tronquée de Jésus dans le royaume ? Une vision complète de Jésus dans le royaume ? Comment le comprendre ? Et que dire alors des personnes qui n'ont pas la loi, qui n'ont jamais entendu parler de la loi de Moïse, des prophètes, qui n'ont pas accès à l'Ancien Testament ? Peut-être comme les Irlandais que Saint-Patrick est allé voir, qui n'étaient pas chrétiens, ils n'avaient pas entendu parler de l'Ancien Testament. Eh bien, la Bible, l'apôtre Paul nous éclaire là-dessus, dans l'Épître aux Romains. Et c'est un passage que je trouve passionnant, et que j'ai découvert quand j'étais jeune adulte. Tous ceux qui ont péché sans la loi, donc qui ne connaissaient pas l'Ancien Testament, périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens, les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont point la loi, font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience, et ça c'est important, en rendant témoignage, et leurs pensées s'accusant et se défendant tour à tour. Cette conscience que Dieu a donnée à chacun de nous. C'est ça qui compte pour Dieu. Alors, au verset 20, Jésus parle de justice. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Mais de quelle justice il parle ? Les scribes et les pharisiens avaient une lecture toute scolaire des textes, rendant encore plus difficile et inaccessible une justification. Il y avait des sacrifices à faire, si on transgressait une loi, des sacrifices de purification, des sacrifices d'action de grâce, des sacrifices pour tout. C'était une loi très mécanique, une religion mécanique. Si on regarde l'alphabet, et c'est pour ça que je parlais de l'alphabet tout à l'heure, dans l'ordre, et c'est ce qui fait l'alphabet. On la comprend. Il ne faut pas changer le sens, et je ne vous conseille pas de le changer de sens pour vos enfants. L'alphabet n'est plus l'alphabet. C'est un alphabet rigide, c'est un tuteur, comme dit l'apôtre Paul, concernant la loi, pour apprendre à s'exprimer, à écrire, à lire. Si on change l'ordre, eh bien on ne comprend plus rien. Essayez ensuite de le réciter dans le désordre. Tous les écrits, si on change l'ordre, n'ont pas de sens, comme l'alphabet. Rien ne doit changer. Ce tuteur, c'est Dieu qui nous l'a donné dans la Bible. Mais de quelle justice il parle ? Si ce n'est pas la justice par la loi, en faisant des choses, en respectant ce que la loi de Moïse veut nous dire. Ça, c'est peut-être en oubliant certains textes de l'Ancien Testament, qui parlent même de la loi, dans Exode chapitre 34, de Dieu. Comment Dieu se qualifie. Une loi mécanique, on se sent coupable tout de suite dès qu'on a fait quelque chose qui est en transgression de cette loi. Mais Dieu se qualifie lui-même en Exode chapitre 34 verset 6 et se donne un titre. Il suffit de lire pour comprendre son caractère. Dieu est miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en beauté, bonté et en fidélité. Alors comment croire qu'un Dieu comme ça veut que l'on continue à suivre une loi mécanique de choses à faire, à ne pas faire? Un Dieu juste, mais qui n'oublie pas que nous sommes pécheurs. Et dans Exode, il dit quand même qu'il y a quand même des conséquences pour le péché. Mais lui, il est miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. L'apôtre Jacques rappelle au chapitre 2 de son épître, au verset 10, « Qui quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. » La justice des pharisiens était scolaire, des pharisiens, des scribes, rigides, liés à la tradition et impossibles à atteindre. Comment surpasser cette mécanique, comme le dit Jésus ? Comment surpasser cette ABC ? C'est possible. Et si j'oublie, si je transgresse ou méconnais une partie de cette loi des prophètes, il faut se rappeler que Jésus est venu. Jésus a accompli, et c'est ça la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est Dieu lui-même fait chair, qui est venu sur terre nous voir et qui a accompli la loi parfaitement. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 3, verset 22, « Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. » La loi et les prophètes sont témoins de la justice de Dieu en Jésus. Ils sont témoins de Jésus-Christ. Et comme dans Romains au chapitre 10, au verset 10, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en croyant en Jésus qu'il a tout accompli qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Et là, je comprends comment Jésus dit « Il y a un plus petit et il y a un grand dans le royaume des cieux. » Parce que les deux sont dans le royaume des cieux. Il y en a un qui a une version peut-être tronquée, il n'est peut-être pas allé très loin dans sa foi, dans sa connaissance de Jésus, mais il y est. Mais il a pris possession de ce que Jésus lui offre. Ce n'est pas la connaissance, la répétition, la mécanique d'une foi qui sauve. Et c'est là, au lieu d'un ABC, d'un alphabet, qu'on arrive peut-être à un do-ré-mi, quelque chose de plus doux. Une musique, la musique de Dieu. Ce tuteur qu'est la loi, la mécanique, rigide, mathématique, presque, me montre le péché et la nécessité de se tourner vers Dieu. Mais montre aussi la venue de Jésus qui, en accomplissant la loi, nous permet de ne plus être esclaves de la loi. Parce que lui a tout accompli. Et nous devenons non plus esclaves, mais fils de Dieu. Et quand on accepte Jésus dans notre cœur, quand on accepte ce qu'il a fait, c'est ça que ça veut dire. Accepter Jésus dans son cœur, c'est accepter qu'il est venu, qu'il est mort à notre place, qu'il a tout accompli à notre place, même la mort, qu'il est ressuscité. Il nous a dit que Dieu, dans Galates au chapitre 4, verset 6, que Dieu nous envoie son esprit et que son esprit crie « Abba, Père ». Nous sommes donc devenus fils de Dieu grâce à son esprit en nous. Et c'est cet esprit qui peut nous guider, nous aider à accomplir le commandement qui résume tout commandement, comme dit Jésus au chapitre 23 de Matthieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Il dit que c'est le premier et le plus grand commandement dans la loi. Et lui, ben, il a accompli. Et le second, qui lui est semblable, donc, ça veut dire qu'il n'est pas plus petit ou plus grand comme loi, il est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. La loi et le prophète, c'est l'alphabet, ce qui nous apprend, ce qui nous apprend ce que Dieu veut que l'on soit, le standard de Dieu, qui est impossible à atteindre, mais que Jésus est venu accomplir, l'ABC, si l'on veut. Jésus, la composition faite avec l'ABC, le Dorémi, la musique de Dieu. Et une musique sans solfège est difficile à comprendre ou à jouer. Mais son esprit en nous joue cette musique. C'est lui qui crie « Abba, Papa ». Faisons confiance en cet esprit de Dieu en nous. Faisons attention à toute la parole. Garant d'une compréhension, d'une vision complète. Mais pas garant pour entrer au royaume. Il faut croire en Jésus pour entrer au royaume. Jésus, c'est l'hymne de notre Dieu, sa divine musique. Une fois accepté, justifié, nous sommes libres. Amen. Et je vais revenir à une citation de Saint Patrick, excusez-moi, qui aimait dire que Christ était devant lui, derrière lui, au-dessus de lui, en dessous de lui et à côté de lui. Gloire à Dieu.